10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM et c'est un moment de partage et nous sommes très heureux de partager cette heure avec vous pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi ce matin, avec plein d'enthousiasme et d'ambition.
Allez. Vous savez que la semaine dernière, bon, on a eu une émission un peu compliquée puisqu'on avait perdu Kiki Mamoun.
Oui.
Week-end, bon alors là, je vous parle même pas du week-end, hein, on a démonté la radio complètement et on a retrouvé Kiki Mamoun lundi matin. Donc,
Oui, alhamdulillah. Bon dénouement, on va dire,
ah oui,
cette histoire.
Parce que moi, je me voyais payer une rançon, là, Imam Abdelali.
Ah ouais, là, c'est chaud, là. Enfin, ouais. Surtout que Deya, elle était très triste.
Deya, c'est votre fille.
Je te promets, elle n'a pas arrêté de chialer.
Non, mais je sais.
C'était chaud, quoi.
Moi, j'ai cru que Kiki Mamoun avait été mangé par Ghost Serran, mais bon, il n'a pas mangé.
Ça va, quand il est arrivé, tout de suite, il avait soif. Il s'est jeté sur le petit hamster.
Donc il a bu un coca.
Il avait très soif.
C'est lecto, il a bu quoi?
Non, il a son petit récipient là, avec la petite pipette, là, une sorte de pipette pour qu'il puisse se boire spécialement pour les hamsters.
Tout ça m'échappe. Ouais. Mais enfin, en tout cas, l'histoire termine bien. Alors, Imam Abdelali, vous avez commencé à en parler. Nous allons parler de l'ambition, mais pas de l'ambition telle qu'on la connaît.
Non, effectivement, l'ambition, au sens noble du terme, il est tout à fait honorable d'être ambitieux dans la vie et d'utiliser toutes ses compétences pour aller le plus loin possible dans ses, on va dire, dans ses desseins que l'on peut avoir dans la vie. Et à partir du moment où, je répète, il faut que ça soit à la fois des objectifs et des cibles nobles, c'est-à-dire des objectifs nobles, et avec, en utilisant des moyens qui sont eux aussi nobles. Je ne souhaite pas, par exemple, avoir pour ambition d'avoir un métier qui tend à pratiquer quelque chose d'illicite. Par exemple, je vais dire un exemple tout bête, mon ambition c'est de devenir le parrain d'une mafia, par exemple. C'est pas ambitieux ça, ça s'appelle pas être dans l'ambition. C'est malveillant d'avoir ce genre d'ambition et d'intention, puisque, bien entendu, elle tend à devenir quelqu'un de malfaisant tout au long de sa vie. Quand on parle d'ambition, on parle de tendre à ce qui permet à quelqu'un d'atteindre à la fois ses affinités, le travail et les activités qui vont lui permettre de s'épanouir dans la vie, mais en même temps de pouvoir gagner sa vie convenablement, pourquoi pas même gagner beaucoup. C'est pas interdit d'avoir des ambitions de gagner beaucoup d'argent, avoir des ambitions de gagner beaucoup, mais bien entendu en utilisant des moyens nobles et des outils qui sont conformes à la loi divine et à la loi des hommes. Il faut impérativement que le musulman se dise, voilà, moi dans ma vie il faut que j'y arrive, il faut que je fasse, que j'atteigne mes objectifs pour justement à la fois jouir, contribuer à mon bonheur personnel, celui de mon entourage et au maximum de gens autour de moi. Gagner beaucoup d'argent, c'est bien aussi pour adorer Dieu, c'est bien pour par exemple aider son prochain dans la nécessité et dans le besoin. Ça, c'est toujours agréable que de se regarder le soir dans la glace fier, parce que on sait que dans la journée on a donné à manger aux nécessiteux, on a aidé des personnes qui étaient en difficulté, etc. On peut pas imaginer le bonheur que ressent l'individu quand il fait ce genre d'action. Et effectivement, il le fait de manière désintéressée d'une récompense d'ici-bas, mais il sait en plus que il est dans l'espoir d'une récompense divine dans le jour de la résurrection. Et il est certain, parce qu'il a une bonne pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, son miséricordieux, qu'il aura effectivement la récompense qui lui est due, puisque le Coran dit tout ça, inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin, Dieu ne commettra aucune injustice, même ne serait-ce que la taille d'un atome. Quand tu fais du bien, tu seras forcément récompensé, même si tu n'es pas musulman. Hein, toute personne qui fait du bien, qu'elle soit musulmane ou pas, sera récompensée par Dieu. Dieu n'est pas indifférent à quelle que soit l'action que va accomplir une personne, même un animal. Un animal qui fait du bien, il est récompensé. Voilà, donc à partir de là, C'est pour ça que le croyant est dans cette démarche ambitieuse et non pas dans le défaitisme, le fait de baisser les bras, d'être quelqu'un qui n'a aucune ambition dans la vie. Et là, je m'adresse même aux personnes d'un certain âge. Il faut pas se dire non, moi, ça y est, je suis à la retraite. Hein, qu'est-ce que c'est que cette idée de se dire être à la retraite? Il n'y a pas de retraite en islam. La retraite, c'est la mort. Hein, adore ton Seigneur jusqu'à que tu atteignes la certitude. Et là, la certitude, à l'unanimité des savants, il s'agit de la mort. Il ne s'agit pas d'avoir la certitude dans sa tête que Dieu existe, etc. Hein, ça veut dire la mort. Et donc le croyant continue.
Après, si on vous écoute bien, ça veut dire qu'on doit travailler jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort. On doit être ambitieux de faire ce que l'on est en mesure de faire.
Oui, mais attends, moi je vous parle de travailler.
Alors, je répète, s'il ne s'agit pas de travailler ou pas travailler, il s'agit de faire, d'accomplir des actions dans la mesure de ses moyens.
Donc, la retraite existe. Parce que si vous dites la retraite n'existe pas, ça veut dire...
Non, t'as pas compris. Quand quelqu'un n'est pas à la... Je parle pas d'une retraite administrative.
D'accord.
Où est-ce qu'il dépose des documents auprès des services concernés pour obtenir une retraite. Non, je parle que même quand on est dans un statut de retraité, on ne reste pas à rien faire. On est toujours dans l'action, on est toujours dans le mouvement. On n'attend pas, on s'assoit pas sur une chaise à balance. Vous savez, en attendant que notre corps meure et qu'on rende l'âme.
Rocking chair.
Voilà, un rocking chair, voilà. Il y en a, ils aiment bien. Ils disent, voilà, maintenant je suis à la retraite, je vais me la couler douce, je vais rien faire. C'est pas ça le bonheur. Franchement, c'est pas ça. Vous verrez que c'est dans l'action, c'est dans la contribution, c'est-à-dire ça, s'il le faut, pourquoi pas s'investir dans des associations de bienfaisance, etc., contribuer même à la hauteur de... Donc le croyant, il est ambitieux. Il est constamment dans l'ambition d'accumuler et d'emmagasiner un maximum d'actions de bienfaisance, de piété et de noblesse de caractère. C'est ce que doit avoir toujours à l'esprit le croyant. Il n'est pas dans cette idée, voilà, moi, l'idée reçue d'une personne aigrie, malveillante, impolie, totalement désagréable avec son entourage parce que soi-disant j'ai atteint un âge avancé où je n'ai plus aucun compte à rendre à personne. On aura toujours des comptes à rendre à quelqu'un, et ne serait-ce que vis-à-vis de son créateur, pour chaque mot, chaque attitude, chaque comportement, chaque action que va mener le croyant, eh bien, il devra en rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant, il est ambitieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ses conversations, même dans ses discussions, il est dans la démarche de toujours choisir des thèmes utiles et on doit pas, c'est pas interdit d'être agréable, joindre l'utile à l'agréable, c'est toujours intéressant, mais il doit être toujours dans ce qui n'est pas futile, dans ce qui est au contraire productif, de ce qui va lui apporter quelque chose à lui et aux gens avec qui il s'adresse, à qui il converse, avec qui il a des entretiens. Aujourd'hui, malheureusement, ce que l'on constate, c'est que beaucoup de gens perdent leur temps, par exemple, dans les terrasses de café, à s'asseoir, à perdre leur temps, à laisser passer la journée sans rien faire, sous prétexte que, moi, j'ai de l'argent qui rentre sans travailler, donc je peux en profiter, je peux me la couler douce. Non, c'est pas ça la vie du croyant. La vie du croyant, c'est de se dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai fait quelque chose. Le soir, il se regarde dans le glace quand il fait le bilan de ce qu'il a fait dans la journée, de ce qu'il a fait dans la semaine, de ce qu'il a fait dans l'année. Et là, bientôt, nous avons une année qui va être révolue, une année grégorienne, une année du calendrier chrétien. Eh bien, il est aussi intéressant de se poser la question sur ce qu'on a fait, ce que l'on a accompli, ce que l'on a réalisé durant cette année. Ou au contraire, ce que l'on a commis, ce que l'on a, subi comme mauvais choix qui a contribué à notre mal-être, à notre à être une personne jugée malveillante, qui aboutit notamment à un échec dans sa vie. Le croyant est toujours dans cette ambition de toujours atteindre avec succès ses ambitions, et comme je le dis, on peut parler d'ambition qu'à partir du moment où il n'y a pas avidité, il n'y a pas cupidité, il n'y a pas l'utilisation de moyens malveillants, de moyens malsains, le mensonge, l'escroquerie, la tricherie, tout ça, ce ne sont pas des ambitions. Ce sont des actes d'avidité que Dieu déteste et que toute personne aussi déteste parce que finalement, Allah Azza wa Jal nous a imprégné de cette fitra. Le fitra, c'est-à-dire le fait de pouvoir distinguer le bien du mal. Ce qui au fond de toi est mal, est mal. Ce qui au fond de toi est bien, est bien. Istafti qalbak wa in aftawk. Interroge ton cœur, même s'il te donne des fatwas et des fatwas. Hein, c'est toujours ton cœur qui est capable de distinguer le bien du mal, et c'est souvent la vérité. Et c'est souvent le bon sens que de s'interroger soi-même sur le caractère bon ou mauvais de ce que l'on fait. Donc le croyant, il est dans cette, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu daniyaha wa safsafaha. Dieu aime tous ceux qui ont des ambitions très élevées, très hautes, très nobles, très grandes. Et il détestait tout ce qui était avilité, humile, tout ce qui contribuait à l'humiliation. Les mêmes chefs, et je m'arrêterai avec ce joli poème, disait dans une de ses... Et pourtant, qu'est-ce qu'il est devenu, les mêmes chefs? Les mêmes chefs, alors il faut savoir c'est qui. On parle de Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, qui est né lors l'an 150 de l'Hégire et qui est mort en 204. C'est-à-dire qu'il a vécu 54 ans. Et en 54 ans de sa vie, il est devenu le phare de la Ummah, le phare des musulmans et du monde musulman à une période abbasside très sombre. Et lui, donc, il a été ce phare qui a éclairé toute l'humanité à tel point qu'il est devenu, comme beaucoup le disent, le Mujaddid, c'est-à-dire le rénovateur du 3e siècle. Celui qui a rénové le 3e siècle pour lui redonner sa vigueur et son ambition spirituelle. L'imam Shafi'i disait dans un poème, Himmati, Himmatul Muluk wa Nafsi. Mes ambitions sont les ambitions des rois et mon âme. Nafs hurrin taral madallata kufra. Une âme pure, une âme libre qui considérait toute humiliation comme étant une mécréance. Chaque acte ou parole vile était pour lui considéré comme une mécréance. Donc une mécréance, c'est-à-dire un blasphème ou bien une anathème qui se faisait à lui-même. Et donc il détestait tout ce qui était vil. Il était quelqu'un de constamment ambitieux. Et c'est ce que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Des parents qui sont pas dans cet esprit ambitieux, eh bien, ne peuvent pas éduquer correctement leurs enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas leur transmettre les valeurs de dire, voilà, moi, mon enfant, je voudrais qu'il soit un prince. Quand je dis un prince au sens figuré du terme, c'est-à-dire qu'il devienne quelqu'un de respectable et de respectueux. Voilà ce que nous encourage notre religion. Même en matière de spiritualité, le croyant est aussi ambitieux. Par exemple, quand il demande à Allah, il dit pas « Non, moi, mon Dieu, je mérite que d'être épargné de l'enfer » ou « Je mérite qu'une petite place sur un tabouret devant la porte du paradis » ou « Je mérite un petit coin au paradis ». Non, 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 non. Le croyant, il est dans cette démarche constamment de savoir, il sait parce que Dieu est extrêmement généreux, il est extrêmement miséricordieux et il est extrêmement pardonneur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire « Non, moi, j'ai commis trop de fautes, je ne peux pas mériter le paradis, le vaste paradis, le 8e degré du paradis » en compagnie du prophète. Non, il faut se dire non, on peut. Allah Azza wa Jalla, dans sa grande miséricorde, peut autant nous laisser commettre autant de fautes que de décider de nous les pardonner. Donc le croyant est constamment dans l'optimisme de l'esprit que Allah Azza wa Jalla, son créateur, va lui pardonner. Et donc il est dans l'ambition constamment de souhaiter ce qu'il a de meilleur dans l'au-delà. Et il va obtenir ce qu'il y a de plus méritant dans le paradis, même s'il considère que beaucoup d'autres gens méritent mieux que lui. Mais il doit se dire, non, Ya Rabbi, atini al-Firdaus al-A'la. Oh mon Dieu, accorde-moi le Firdaus, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis, dont le plafond, je répète, je termine là, le plafond, c'est le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Nassallah tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-Firdaus al-A'la, Ya Rabbi al-Alamin.
Imam Abdelali, alors, nouvel épisode de la vie du prophète tout à l'heure, nous allons nous intéresser aux compagnons.
Oui.
Oui.
Oui, tout à fait.
C'est tout, c'est bien, vous faites du teasing, vous le vendez bien.
Alhamdoulilah.
Hein, vous le vendez bien. Pourquoi les compagnons sont-ils partis en Abyssinie?
C'est ça.
C'est la question à laquelle vous répondrez
les compagnons. Non, oui. C'est le voyage en Abyssinie qui est intéressant.
Mais c'est les compagnons qui sont partis en Abyssinie.
Ils sont partis.
D'accord.
Tout à fait. Pas le prophète.
Non,
tu as raison.
Non. C'est un nouvel épisode de la vie du prophète. Et nous allons nous intéresser aux compagnons. qui sont partis en Abyssinie. Et nous verrons pourquoi. Voilà, pourquoi. Là, vous le vendez mieux, Imam Abdelali. Là, oui.
D'accord.
Vous captez votre audience. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Imam Abdelali Mamoun. Alors, chaque semaine, Imam Abdelali, vous nous racontez un épisode de la vie du prophète.
Alors oui, effectivement, là nous sommes à une période où les musulmans sont au summum de leur épreuve, c'est-à-dire qu'ils sont éprouvés et persécutés par les habitants de Quraysh. Alors je rappelle le contexte sociologique d'abord et politique d'abord, puisque la péninsule arabique est totalement désintéressé de toutes les grandes puissances du monde, puisque l'Égypte est occupée par les Romains sont occupés avec les Perses. En tout cas, la péninsule arabique aujourd'hui ne fait plus l'objet d'ambition des grandes puissances de l'époque qui influençaient sur la région. Par contre, l'ennemi du prophète, ceux qui sont, bien entendu, ceux qui sont ses détracteurs et qui vont lui faire la guerre, ce sont les Mekkois, qu'on appelle en arabe Quraysh. Alors Quraysh met tout en œuvre pour dissuader le prophète et ses compagnons de propager leur croyance. Alors d'abord, essayons de comprendre comment. Après, on verra pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est lié à cette fameuse immigration au Habasha. Mais pourquoi ? Mais comment ? Comment ils font ? D'abord, ils proposent à l'oncle du prophète, c'est-à-dire Abu Talib, qui, je rappelle, d'un point de vue sociologique, et là, c'est important de le préciser, il est sous sa protection. Les tribus arabes se protègent les unes les autres et protègent leurs membres. Personne ne peut porter atteinte à un individu d'une tribu sans qu'il subisse les représailles de l'ensemble de la tribu. Le prophète exploite cette réalité sociologique pour se protéger derrière la tribu des Hashimites et que personne ne puisse lui faire du mal. Mmh. Par contre, tous ceux qui ne sont pas des notables, qui ne sont pas des membres d'une tribu de manière officielle, n'ont pas un lien de sang avec ces tribus, qu'on appelle les Mawali par exemple, ou les esclaves, les Abid, eh bien eux subissent les pires sévices, les pires persécutions, les tortures, les punitions les plus sévères de la part des habitants de Quraysh. Je te parle pas de Bilal, de Soumaya bint al-Khayyat, son mari Yasser, etc., et même Ammar, leur fils. Donc tout ça, ce sont des Mawali et des Abid. Les Mawali, je répète, qu'est-ce que c'est ? Des Mawali, ce sont des étrangers qui vivent à la Mecque et qui sont sous la tutelle d'une tribu Quraysh. Mais des fois, ce sont les membres eux-mêmes de la tribu de Quraysh qui persécutent leur propre Mawali. Oui, parce que comme ils se sont convertis à l'islam et que eux font la guerre à l'islam, ils considèrent ça comme une forme de trahison. Comment nous on te protège, nous on te met sous notre aile, nous on te couvre, on te comble de tous tes besoins, et toi t'en profites pour nous trahir et tu te convertis à la religion de Mohammed que nous détestons. Comment ça ? Donc ils vont attraper ces gens-là, ces compagnons convertis, et ils vont leur faire subir les pires sévices, les pires persécutions imaginables. Les tortures, les coups de fouet, on va leur mettre des pierres sur le ventre, des pierres très très lourdes pour les faire souffrir, etc. Et on va les laisser au soleil, cuire au soleil, etc. Attachés sans ombre, sans rien, et sans eau surtout. Et donc ces compagnons-là vont plus supporter la situation. Donc entre l'année 3 qu'on a dit la semaine dernière étant le début de la période notoire, la période de diffusion publique de la révélation du prophète, ce qu'on appelle Al-Marhalatul Jahriya, eh bien les compagnons vont subir énormément de persécutions. Cela va commencer dès le début quand Omar et Hamza vont dans les rues de la Mecque, chacun derrière lui 19 hommes, puisqu'ils sont successivement le 30e converti Hamza et le 40e c'est Omar al-Khattab. Donc 20, Omar avec 19 personnes, et lui il est le 20e, et Hamza devant avec 19 derrière lui, eh bien vont traverser les rues de la Mecque en criant, en répétant et en multipliant la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Et c'est cette formule-là qui va irriter particulièrement... énerver les habitants de la Mecque parce qu'ils y voient en cela une forme de provocation. Ils vont aller jusqu'à la Kaaba, crier la ilaha illallah, prier Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu, etc. Et donc dénoncer toutes ces idoles. Eh bien, voilà comment se passe. Qu'est-ce que fait Hamza? Eh bien, ils sont attaqués par les habitants Quraysh qui, bien entendu, ils se sentent obligés de se défendre. Donc Hamza va carrément donner des coups. Il va avoir à coups de main, c'est-à-dire à main, ils vont se bagarrer avec les habitants de la Mecque. Bon, pour Hamza, il n'y aura pas de difficulté. C'est un grand Quraysh, un notable de la tribu des Hashimites. Il est protégé. Omar al-Khattab est un Bani Adi. Sa mère est une Makhzoumia. Donc, il est ici lui aussi d'une très grande tribu. Et il est très puissant. C'est une armoire à glace. Donc, il n'a peur de personne. Mais les autres, hein, les Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, qui, quand il va réciter Surat al-Rahman dans les rues de la Mecque, en disant Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, allamahu al-bayan, al-shamsu wal-qamaru bi-husban, wal-najmu wal-shajaru yasjudan. Et Abdullah ibn Mas'ud, avec une super belle voix, plus belle que la mienne, hein, le prophète disait même laqad utita mizmar min mazamir daoud, ya Abdullah ibn Mas'ud, c'était un homme de petite taille mais il avait une super belle voix. Et bien Abu Jahl, le chef des pires ennemis du prophète, va l'attraper par l'oreille. Il va lui arracher l'oreille. C'est-à-dire, il va le tirer en haut comme ça, tellement fort, eh bien, qu'il va lui arracher l'oreille. Et il va subir des coups il va recevoir des coups de pierre. Ils vont être lapidés à coups de pierre, etc. Donc, les compagnons ne vont cesser de subir les pires supplices. Donc, pour cela, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir et de partir à Habasha. Le prophète, lui-même aussi, il est éprouvé. On va utiliser tous les stratagèmes. D'abord, on va lui proposer à son oncle de le racheter. On va dire, voilà, on te donne un de nos enfants et toi, tu nous donnes le tien, on le tue. Et on va tuer le prophète Mohammed. Et en contrepartie, on va t'en donner un à la place. Il va dire, mais vous êtes fous, vous voulez que moi j'éduque votre gamin et vous tuez le mien, mais ça va pas, non? Ensuite, on va lui dire, on va aller voir le prophète. Il dit, voilà, on va adorer ton Dieu 6 mois et toi, tu vas adorer notre Dieu 6 mois. Et là, Dieu va révéler la sourate, qul ya ayyuhal kafirun, ô vous les mécréants, la abudu ma ta'budun, je n'adorerai jamais ce que vous adorez. Voilà, tout ma abiduna ma abud, et vous n'adorerez pas ce que moi j'adore. Et la sourate est connue comme étant celle qui a été légiférée pour rappeler le prophète qu'on ne peut pas négocier avec la foi. La foi ne se négocie pas moitié-moitié. C'est pas toi 6 mois, on adore ton Dieu 6 mois et toi tu adores le nôtre 6 mois. Donc cette idée-là, ce complot, cette manigance va être rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, la meilleure, c'est quand on va lui proposer carrément, il dit, est-ce que tu es malade? On va te ramener les meilleurs médecins. Si tu veux être riche, on va te donner tout l'argent que tu veux. Si tu veux être le roi, on va te donner la royauté. Si tu veux, tu deviens notre roi. Voilà. Mais à condition que tu laisses tomber la prophétie. Et là, le prophète va répondre. Il va leur dire, écoutez bien, même si vous mettez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, pour que je délaisse cette mission-là, je ne la délaisserai jamais, sauf si je devais en mourir. Hatta uhlaka duna. Donc voilà comment était le prophète par rapport à cette ambition. Et là, de réaliser sa mission, on parlait tout à l'heure d'ambition. Le prophète était quelqu'un d'extrêmement ambitieux quant à la réalisation de ses objectifs. Et il avait un objectif, c'est de propager l'islam, il y va coûte que coûte, même s'il doit en mourir. Et c'est ainsi que les musulmans sont persécutés. Le prophète trouve pour une solution, allez, vous ne pouvez pas continuer à subir tout cela, je vous invite à partir. Donc il laisse d'abord partir Uthman ibn Affan avec une petite délégation. Ils sont 12 hommes et 4 femmes. Ils sont 16 personnes qui partent au Habasha. En Éthiopie, ils arrivent là-bas, ils sont bien accueillis par le roi. Ensuite, quand il voit que ça se passe bien, le prophète envoie 97 autres. Il envoie 82 femmes, 2 hommes, et le reste des femmes, 16, je sais pas combien, voilà, une douzaine de femmes aussi, avec 82 hommes, 83 hommes. Il y avait Ammar ibn Yasser parmi eux, il y avait leur chef, c'est Ja'far ibn Abi Talib, et ils arrivent chez le roi d'Abyssinie qu'on appelait Négus al-Najashi. Et là, qu'est-ce que font Quraysh? Eh bien, ils envoient eux aussi une délégation pour demander au roi Négus de leur renvoyer ces réfugiés, puisqu'on appellera ça des réfugiés. Mais le prophète n'est pas parmi eux. Lui, il est resté à la Mecque. Pourquoi il est à la Mecque? Parce que lui ne craint rien. Il est protégé par la tribu des Hashimites. Et comme Abu Talib leur a dit, il faudra passer d'abord sur mon corps pour que vous puissiez toucher à Mohammed, mon neveu, eh bien, ils ne peuvent pas l'atteindre, à part des fois des tentatives d'humiliation. On va lui jeter une panse, le contenu d'une panse de chamel sur sa tête. T'imagines tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une panse, hein, Philippe. Eh bien, on va lui mettre sur la tête alors qu'il est prosterné devant la Kaaba. On va essayer de lui fracasser la tête avec une pierre. Et là, ça sera un ange qui va protéger le prophète, puisque Dieu dira à son prophète, « Wallahu ya'asimuka minan nas », Dieu te protégera des gens.
Donc, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire alors?
Se réfugier, tout simplement, chercher la paix, chercher la tranquillité.
Ah, c'était vraiment pour se réfugier.
Bah oui, ils n'arrêtent pas. Ouais. Où est-ce qu'ils en? Ils reçoivent des coups de pierre, des coups de bâton. Où est-ce qu'ils, dès qu'ils prêchent, où est-ce qu'ils font la prière collectivement, ils sont tout de suite dérangés par les Quraysh qui leur donnent des coups, etc. Donc c'est cette centaine de compagnons vont vivre à Habasha tranquillement. Comme je dis, la délégation de Quraysh dirigée par Amr ibn al-As al-Sahmi, qui deviendra un grand compagnon, va tenter de convaincre justement An-Najashi de rendre les réfugiés aux Mécois, c'est-à-dire de les renvoyer chez eux. Et de finalement, encore une fois, subir tous les supplices, voire même les tentatives d'assassinat, les meurtres et les homicides volontaires, motivés par la haine et motivés par par le racisme religieux, parce que tout simplement ils ont choisi de croire en un Dieu. Dieu leur révélera même ce verset coranique: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Comment pouvez-vous tuer un homme simplement parce qu'il a choisi de dire Allah est mon Dieu, et Dieu est mon Dieu? Donc voilà, il y a une forme de liberté qui n'est pas respectée, la liberté de conscience, la liberté religieuse, eh bien, qui n'est pas respectée. Et c'est cette valeur que voudra défendre Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à maintes reprises, quand il va dénoncer justement ces gens qui vont persécuter ces croyants, tout simplement parce qu'ils ont choisi d'avoir une autre religion que l'idolâtrie.
Voilà. Ils sont accueillis comment, en fait?
Alors, au début, il leur met des chaînes. Pourquoi? Parce que Amr ibn al-As leur dit, voilà, ils reconnaissent pas Jésus-Christ, etc., etc. Ils disent pas que c'est le Fils de Dieu, tout ça. Et là, Négus est un homme juste, est un roi juste. Il dit à Ja'far, défendez-vous. Allez, je vous laisse parler. Je vous donne la possibilité. Et qu'est-ce qu'il va faire, Ja'far? Il va dire, bah, écoutez, moi, je propose que d'écouter le Coran. Il a dit, vas-y, dis-moi le Coran. Et là, il a commencé à lui réciter la sourate Maryam, sourate Marie. Et là, il raconte l'histoire de comment Jésus est né, etc., etc. Et là, il commence à pleurer. Négus commence à pleurer. Il s'approche de Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, donc qui était le chef de cette délégation de réfugiés. Et il trace avec son bâton un trait au sol. Et il dira cette fameuse formule: il n'y a entre votre croyance et la nôtre que ce qui nous sépare de ce trait. De ce trait qu'il vient de tracer au sol. C'est-à-dire que rien du tout. Finalement, on a la même croyance. Et ce que vous dites sur Jésus, c'est exactement ce que nous pensons, nous, de Jésus. Et c'est ainsi que Négus va se convertir à l'islam. Il va devenir musulman. Et à sa mort, l'année 8 de l'Hégire, eh bien, le prophète va organiser à Médine, parce qu'il est à Médine, il va organiser cette fameuse prière de l'absent. C'est là, on va voir ce qu'on appelle la sunna de Salat al-Janaza al-Ra'ib, où est-ce qu'il va réunir à côté de la mosquée de l'Ramama, qui est aujourd'hui la mosquée de l'Ramama, tous les compagnons pour prier la prière de l'Janaza sur le défunt absent, c'est-à-dire Négus al-Najashi radiyallahu ta'ala anhu.
Que nous verrons dans un autre épisode. Imam Abdelali, dans un instant, une question d'enfant. Chaque semaine, vous répondez à une question que vous a posée un enfant. L'islam au présent, alors c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM. Je rappelle qu'à partir de 11h, vous retrouverez Maître Serran pour C'est tout droit et vous pourrez poser toutes vos questions juridiques à Maître Serran.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, je vous rappelle que chaque semaine, l'imam Abdelali répond à une question qui a été posée par un enfant. Alors, imam Abdelali, la question de la semaine: pourquoi est-ce qu'il existe autant de religions pour n'adorer qu'un seul Dieu?
Eh bien, tout simplement parce que Dieu en a voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu. Il le dit clairement dans le Coran. Peut-être dans d'autres livres, mais en tout cas dans le Coran, il le dit. Il dit: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Et il dit ensuite, alors il y a deux versets: وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Mais il égare qui veut et il guide qui il veut, dans un des versets. Et dans un autre verset, il dit: وَلَكِنْ il dit mais il cherche à vous éprouver sur ce qu'il vous a révélé, sur ce qu'il vous a fait descendre et vous a accordé comme parole divine, comme moyen de guidance et de manière de chercher le droit chemin. Alors maintenant, il est quand même important que l'on comprenne l'origine de ces religions et que nous pensons être dans celle qui est la vraie. D'abord, d'un point de vue dogmatique, d'un point de vue credo théologique, c'est-à-dire que la conception que l'on a, nous, de Dieu, eh bien, sachez que nous et les Juifs, nous avons la même. Nous pensons à un Dieu indivisible, Dieu le Tout-Puissant, l'incommensurable.
Donc c'est l'unicité de Dieu.
L'unicité pure, authentique de Dieu, qui est la même chez les Juifs que chez les musulmans. Tout simplement parce que nous considérons les prophètes juifs, les prophètes du peuple d'Israël, comme étant des prophètes de l'islam. Il n'y a pas de différence. Pour nous, Moïse, ou Abraham, Salomon, ou même Mohammed, nous ne faisons pas de différence entre eux. Dieu, le Coran, nous le demande. Il dit « La nufarriqu bayna ahadin rusuli ». Nous ne faisons pas de différence entre eux, ces messagers. Puisque tous viennent avec le même message, comme l'a dit le prophète dans un hadith authentique, khayru ma qultuhu ana wa an-nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La meilleure des paroles que j'ai dit moi avec, ainsi que tous les prophètes avant moi, il n'y a de Dieu qu'Allah. Donc il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah, c'est-à-dire Dieu. Nous et les Juifs, nous avons la même croyance. Sauf que chez les Juifs, la croyance est réservée au peuple d'Israël. C'est-à-dire que pour eux, les autres êtres humains ne sont pas concernés par cette révélation. Seul le peuple d'Israël est concerné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion universaliste de la révélation chez les Juifs. La religion juive est réservée aux Juifs, c'est-à-dire à la population issue du peuple d'Israël. Israël qui est, je le rappelle, Jacob, fils de Isaac, fils d'Abraham. Donc ce sont des tribus juives qui sont concernées par la révélation et les autres ne sont pas. Ce sont les goy qui ne sont pas, les nations qui ne sont pas concernées. Donc il n'y a pas cette notion universaliste, alors que l'islam, lui, considère que tous les hommes sont égaux et que tous sont concernés par la révélation en droit et en devoir. Par la révélation, c'est-à-dire par l'obligation de réaliser la mission de l'homme sur terre, qui est de répandre le bien et de condamner le mal et d'ordonner de ce qui est de bon usage et condamner ce qui est blâmable. L'amr ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Maintenant, la différence entre nous et les chrétiens. Alors, chez les chrétiens, la divergence, elle est théologique, elle est même christologique, elle est propre à la personne de Jésus. Jésus, chez les chrétiens, il est une personne dotée de deux natures. Il a une nature humaine et une nature divine. Alors que chez les musulmans, qui sont néo-arianistes, donc, puisqu'à l'époque, au 4e siècle de l'ère chrétienne, il y a eu un concile avec des débats, des discussions, des divergences entre les patriarches, notamment celui d'Antioche, celui d'Alexandrie, celui de Constantinople, Constantinople qui s'appelait Byzance encore à l'époque, et celui de Rome, c'est-à-dire les émissaires de Sylvestre Ier, que sont Basile de Césarée, etc., qui sont venus représenter Sylvestre au concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne. Donc lors de ce concile-là, il va y avoir, par exemple, Nestorius qui va dire « Non, mais il n'y a pas un Jésus, il y en a deux, il y a deux personnes, il y a le Dieu et il y a l'être humain ». C'est Nestorianiste. Nestorius, lui, va dire, ce qu'on appelle le nestorianisme, il va dire que quand on prie Jésus, le Dieu, pas Jésus l'humain qui est sorti du ventre de Marie avec le sang et tout ça, et qui est un être humain qui mange et qui boit. Non, il y a une autre personne qui s'appelle Jésus, le Dieu. Et il y a Jésus, l'humain. Donc il y a deux personnes chez Nestorius. En opposé à cela, vous avez les monophysites. Les monophysites, eux, vont dire non, il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'une seule personne, et elle est divine. Chez les arianistes, c'est-à-dire les élèves et les disciples de Darius le patriarche d'Alexandrie, il va dire non, Jésus est une personne dotée d'une nature, elle est humaine, elle est créature. Et nous, musulmans, nous avons cette même conviction, nous pensons que Jésus un jour n'était pas, c'est ce qu'il disait Arius, un jour Jésus n'était pas, il n'était pas, donc il n'était pas, c'est qu'il a été créé, s'il est créé, il n'est pas incréé, donc il n'est pas Dieu, il est une créature de Dieu, donc ça c'est ce que croient les musulmans. Donc toute cette christologie, cette divergence entre les patriarches en 325 va provoquer un schisme, un éclatement des convictions, d'un côté les arianistes, que va même adopter Constantin V et d'autres, et même Constantin Ier va devenir arianiste. Tout l'Afrique du Nord va devenir arianiste, donatiste et arianiste. Et le Nord va être paulinien, c'est-à-dire ceux qui vont suivre les convictions de Saint Paul, que Jésus est une personne dotée des deux natures, une nature humaine et une nature divine. Il est Dieu le Fils. Il est Dieu le Fils. C'est-à-dire, il n'est pas le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. C'est une différence entre être le Fils de Dieu et être Dieu le Fils. Donc, il est Dieu, mais sous la forme de Fils. Et alors que le Père, Dieu, il est Dieu le Père. Et il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc, il y a cette Trinité qui va consolider l'unicité d'un Dieu découpé en trois parties, comme un camembert, on coupe en trois parties. Il y a Dieu le Fils, Dieu Père et Dieu Saint-Esprit. D'où la notion de Trinité chez les chrétiens. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus, est vénéré et adoré et adulé comme le Père, comme le Saint-Esprit. Chez nous, le Saint-Esprit, par exemple, c'est Gabriel, c'est l'archange Gabriel. C'est une créature de Dieu. Ce n'est pas une partie du Créateur. Ce n'est pas l'incarnation du Créateur. Donc, chez les chrétiens, Jésus est l'incarnation de Dieu. Il est Dieu. Et là, la divergence, c'est là où ça va pas. Donc, d'un point de vue théologique, les musulmans à la fois sont universalistes comme les chrétiens, contrairement aux juifs, et ils sont monothéistes purs comme les juifs. Ils ne croient pas à un Dieu divisé. C'est pour ça qu'on utilise le terme « ahad » quand on dit « qul huwallahu ahad ». Dieu dit « Dieu est unique ». « Ahad » ce n'est pas « wahid ».« Wahid » ça veut dire « un, indivisible ». Puisque 3 tiers ça fait 1, 4 quarts ça fait 1, 5 cinquièmes ça fait 1, ça fait toujours 1. On peut avoir 1 avec plein de 6 sixièmes et 7 septièmes, etc. Alors que nous, et Dieu est 1 et 1, il est indivisible. On ne peut pas diviser Dieu. À la fois, il n'est pas multiplié en 2, 3, 4, divinité, idole, et en même temps, lui-même n'est pas en soi divisable. Donc c'est vraiment « قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ ». Et Dieu dit ensuite dans cette même sourate « لَمْ يَلِدْ ». Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc il n'est ni père ni fils. Dieu, il y a le créateur et la création. Il y a ce qu'on appelle la notion de discernement. Il y a d'un côté la création et de l'autre côté le créateur, qui sont totalement dissociés et ne se mélangent pas. Et Dieu n'envoie pas un morceau de lui incréé dans la création. Ça serait totalement impossible à imaginer, puisqu'on aurait une amalgame entre quelque chose de créé et à la fois incréé. Jésus, pour eux, par exemple, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, pensent que Jésus est à la fois créé et à la fois incréé. Il est à la fois Dieu l'adoré et à la fois le fils de Marie qui est né il y a 2000 ans, etc., 2000 et quelques années. Donc voilà, voilà pourquoi aujourd'hui les musulmans pensent que il y a une erreur chez les juifs qui refusent l'idée de l'universalisme du message divin et qui disent que le message c'est pour tous les êtres humains et pas simplement au peuple d'Israël. Et d'un autre côté, un monothéisme pur juif qui est le même que celui des juifs, que les musulmans récupèrent et reprennent à leur compte, puisqu'ils considèrent que tous les prophètes sont les prophètes de l'islam et que Moïse a tenu ce même discours que tient aujourd'hui les juifs, que Dieu est un et indivisible, comme on le conçoit dans les 10 commandements. Par exemple, dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est « Tu n'adoreras pas des idoles, tu n'adoreras que Dieu, Dieu l'unique. » Donc cette notion de « La ilaha illallah » eh bien, elle existe aussi dans le judaïsme. C'est pour cela que même des rabbins aujourd'hui, quand on leur pose la question, est-ce qu'un juif a le droit de visiter une église? Eh bien, ils diront non. Il n'est pas autorisé puisque les églises sont remplies d'icônes et de statues. Alors que quand on va lui poser la question, est-ce qu'un juif a le droit de rentrer dans une mosquée et de même de prier dans une mosquée? Ils sont tous unanimes pour dire oui, puisqu'une mosquée est totalement complètement iconoclaste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idole à l'intérieur.
Bien, alors, Imam Abdelali, vous organisez une Omra prochainement. Votre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient vous contacter?
Alors, la date du 10 au 22 février, du 10 au 22 février, et mon numéro de téléphone pour venir avec moi pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala devant la Kaaba, 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Voilà, tout est dit.
Imam Abdelali Mamoun, dans un instant, c'est Maître Mourad Serhan qui sera avec vous pour ses tout droits. Maître Serhan, à qui vous poserez toutes vos questions juridiques en direct sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.